VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel, midi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un adolescent a été tué aujourd'hui dans une manifestation contre l'insécurité dans un quartier populaire de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. La victime, un élève de 14 ans, scolarisé en deuxième année secondaire d'une école, a été mortellement atteint par une balle. Son corps a été transporté par des manifestants déterminés à se rendre à la mairie malgré le cordon de sécurité de la police. Tôt le matin, les habitants du quartier pauvre de Panzi ont barricadé les routes, brûlé des pneus près de la paroisse catholique de Chahi et de l'hôpital général pour dénoncer l'insécurité devenue chronique. Après la mort de 39 réfugiés burundais, dont des enfants et des femmes, vendredi de l'autre semaine à Kamanyola, au sud Kivu, en République démocratique du Congo, une certaine incompréhension règne du côté burundais. Ils sont nombreux à demander l'ouverture d'une enquête, tandis que tout le monde condamne cette tuerie qualifiée de sauvage. De leur côté, les Nations Unies et le HCR indiquent qu'il est important de mener une enquête. À Bujumbura, notre correspondant Christophe Nkuruziza.
Vendredi 15 septembre 2017, dans l'après-midi, à Kamanyola, au sud Kivu, l'armée congolaise tue 39 réfugiés burundais qui demandaient la libération de 4 des leurs. Le porte-parole du gouverneur du sud Kivu affirme que ces Burundais ont été tués dans des échauffourées avec la police. Bonhomme de Burundais, interrogé par la VOA Afrique, ne comprennent pas comment et pourquoi de telles sauvageries existent dans ce monde et condamnent énergiquement ces tueries.
Quand il y a des gens qui sont tués, c'est pas bien. Chaque Burundais devait se lever et dire non. Il est vraiment inacceptable que des gens qui devaient être protégés soient massacrés de cette manière. Il faut qu'il y ait une enquête pour savoir réellement ce qui s'est passé et que les responsables soient punis.
Arsène Dimouvandi, tout en condamnant cet acte, ne comprend pas comment des réfugiés burundais peuvent être tués par des éléments de l'armée congolaise.
Nous déplorons la mort des 37 Burundais. Pour moi donc, la solution n'était pas vraiment de les tuer ou les tirer par balles réelles. Ils auraient probablement usé d'autres moyens pour maintenir ou contenir cette manifestation, si bien évidemment c'était une manifestation, ou à la limite utiliser les gaz lacrymogènes. Il faut la lumière pour savoir pourquoi ces gens sont morts.
Ce père de plusieurs enfants, tout en condamnant de tels agissements, explique qu'il y a des similitudes avec ce qui s'est passé au Burundi il y a quelques années.
Est-ce qu'on les a tués parce que ce sont des réfugiés ou bien on les a tués parce que la RDC contre la DRT de ces pays? Il y a des cas pareils, similaires qui se sont passés au Burundi. C'était à Rukago. Il y a eu des tueries, c'était autour de la même femme. Puis alors les gens se sont insurgés contre les forces de l'ordre. Le fait que le même cas est arrivé au Burundi, je comprends moi personnellement pourquoi c'est arrivé aussi au Congo. C'était des policiers. Au Burundi, c'était des policiers. La population s'est insurgée contre les policiers. Et au Congo aussi. Au Burundi, on les a tués. Au Congo, on les a tués. On n'a aucune raison de tuer les gens. Même au Burundi, moi aussi je condamne parce que nulle part au monde on ne trouvera des gens qui soutiennent qu'on tue les gens. Il y a d'autres façons de régler les choses sans faire des tueries.
Si l'incompréhension règne parmi les Burundais de la capitale, les HCR et les Nations Unies ont demandé qu'une enquête indépendante soit menée pour connaître les mobiles de ces tueries. Entre temps, des réfugiés burundais urbains du Rwanda ont fait avant-hier une prière au centre Christus de Remera au Rwanda en mémoire des victimes et de plus de 100 blessés. Ils ont également prié pour la paix au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Les procès de 1600 membres présumés du groupe djihadiste nigérien Boko Haram détenus dans des camps militaires à travers le pays commenceront le mois prochain, a annoncé dimanche le ministère nigérien de la Justice dans un communiqué. Les affaires ont été attribuées par le ministre de la Justice, Aboubakar Malami, à plusieurs procureurs et des avocats seront fournis aux suspects par le conseil d'aide juridique, précise le communiqué. Pour parler de l'enjeu de ces procès, Timothée Donangmaï a contacté le professeur Oudou Ayouba, enseignant de sciences politiques à l'université de Zaria.
Les Nigériens attendaient ça depuis très longtemps pour qu'on sache vraiment ceux qui sont derrière Boko Haram. Il y a eu des accusations, il y a eu des soupçons, mais on ne sait pas exactement ceux qui sont derrière. Et tout le monde ici espère que ce jugement devant les tribunaux donnera des réponses à ces questions.
On parle de 1600 militants présumés de Boko Haram qui seront jugés. Qu'est-ce que cela représente? présente comme défi au plan de la sécurité?
C'est vrai que c'est un grand nombre, 1600, c'est même plus. Bon, il y a ceux qui ont été arrêtés lors des combats et puis ceux qui ont été arrêtés dans les villes. Les soutiens au Boko Haram, beaucoup de monde, personne n'a jamais été jugé. Il y a aussi des politiciens qui sont soupçonnés d'avoir aidé Boko Haram. Tout ce monde-là, donc le monde attend.
Professeur Oudou Ayouba, enseignant de sciences politiques à l'université de Zaria dans l'état de Kaduna au Nigeria. À Gao, au Mali, 3 casques bleus ont été tués et 5 autres grièvement blessés tôt dimanche matin lorsqu'un véhicule de la MINUSMA a heurté un engin explosif. Les précisions de notre correspondant Kassine Traoré.
Les transporteurs sur les routes de Gao sont les premiers à se plaindre du nouveau mode opératoire des djihadistes et autres terroristes qui sont en train de mettre des mines et des engins explosifs sur les différentes routes. Des engins explosifs qui sont aujourd'hui à la base de plusieurs attaques. C'est ce qui est arrivé à un véhicule logistique de l'aménagement qui a heurté un engin explosif dans la localité de Kobe, à 35 km de Gao sur la route menant à Afoudo. Ce sont des casques bleus qui escortaient un convoi sur l'axe Anefif-Gao. Le bilan est de 3 casques bleus tués et 5 blessés, dont certains très graves, qui ont été évacués sur la ville de Gao. Sur le coup, une force d'intervention rapide a immédiatement été déployée sur les lieux pour sécuriser le périmètre et permettre la prise en charge des victimes. En tout cas, les attaques terroristes ont doublé d'intensité ces derniers jours dans les régions nord du Mali. Avant cette attaque matinale à Gao, il y a eu en milieu de semaine des obus lancés sur les camps de l'aménagement à Kidal. Une triple attaque à la roquette revendiqué par le groupe du djihadiste malien Yad Agali, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici à Washington, il est 7h07. La Corée du Nord, le Venezuela et le Tchad ont été intégrés dimanche à la liste des pays visés par le décret migratoire américain pour des manquements à la sécurité sur leurs voyageurs et un manque de coopération avec Washington. Le Soudan, l'un des 6 pays musulmans visés par le précédent décret, a été retiré de la liste. Le nouveau texte interdit ou limite l'entrée des États-Unis aux ressortissants étrangers de 8 pays au total, avec l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie et le Yémen. En dépit des injonctions des autorités de Bagdad et même d'un arrêt de la Cour suprême irakienne ordonnant une suspension du scrutin, la région autonome du Kurdistan iranien tient aujourd'hui son référendum d'autodétermination. Timothée Donagbaye nous en dit plus.
Les dirigeants kurdes irakiens entendent bien poursuivre la marche vers l'indépendance. Dimanche, le président du gouvernement régional du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, a appelé les habitants à se rendre massivement aux urnes et à voter dans la paix. Nous sommes parvenus à la conclusion que l'indépendance nous permettra de ne pas répéter les tragédies du passé, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Erbil, la capitale régionale. Ajoutons, le partenariat avec Bagdad a échoué et nous n'y retournerons pas. Cependant, Massoud Barzani a assuré que le résultat du scrutin ne changera rien dans l'immédiat, mais qu'il déclencherait plutôt des pourparlers avec Bagdad sur une indépendance future. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a fait savoir de son côté qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver l'unité du pays. Déjà, le gouvernement irakien a demandé à tous les pays de ne traiter qu'avec lui pour les transactions pétrolières. À la demande des autorités irakiennes, l'Iran a cessé dimanche ses liaisons aériennes avec le Kurdistan irakien.
Angela Merkel et les conservateurs allemands ont remporté les législatives de dimanche, mais ils se retrouvent affaiblis par le succès historique de la droite nationaliste et la difficulté de trouver des partenaires pour gouverner. Madame Merkel, au pouvoir depuis 12 ans et 3 mandats, a reconnu qu'elle avait espéré un meilleur résultat et qualifié l'entrée de l'alternative pour l'Allemagne, AfD, de nouveaux défis. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, s'est alarmée aujourd'hui des risques d'une épidémie de choléra dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh, où plus de 435 000 personnes ont trouvé abri, loin des violences en Birmanie. L'ONG Médecins Sans Frontières avait déjà la semaine dernière lancé un cri d'alerte en prévenant que les camps de Rohingyas réunissaient les conditions d'une catastrophe sanitaire en germe. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et il vous sera présenté par Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent. Merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Allez chérie.